Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Durant un an et demi, Adeline et Olivier ont parcouru près de 20 000 km sur les routes et les pistes africaines. Des immensités du Sahara à la steppe Maasai, en passant par les étendues sauvages de la Namibie. Les jeunes voyageurs ont découvert un continent aux multiples visages. Complexe et envoûtant, heureux et dramatique, résigné ou porteur d'espoir. Dans tant d'Africa, ils laisseront s'exprimer leurs peurs, leurs désillusions, leurs dégoûts parfois. Mais au-delà des doutes et des moments d'infortune, le couple décrit avec enthousiasme l'intensité des rencontres et la satisfaction d'avoir donné vie à son rêve le plus fou.
Tant d'Africa, voilà, donc on va ensemble essayer de comprendre qui vous êtes, ce qui s'est passé dans votre tête pour un jour partir, j'imagine, en tandem à travers l'Afrique.
C'est ça, exactement. Tant d'Africa, ça veut dire tandem et Afrique. Et en fait, c'est venu d'un voyage qu'on a effectué en 2009 et 2010 pendant 18 mois à travers l'Afrique. On est parti de la région parisienne au mois de janvier 2009 avec pour objectif de rejoindre le Cap en Afrique du Sud. Et donc voilà, on s'est mis à rouler avec cet objectif-là, sans idée d'itinéraire précis au départ. On voulait simplement passer par l'Afrique de l'Ouest et puis ensuite par l'Afrique de l'Est. Et puis en fonction des rencontres ou voilà, des centres d'intérêt qu'on a pu découvrir durant le voyage, on a organisé notre itinéraire. Donc on a traversé 18 pays au total, on a fait 20 000 km.
Comme ça.
Comme ça. On n'était pas forcément des cyclistes chevronnés à la base, bien au contraire, on n'était jamais parti à vélo et on s'est rendu compte qu'en fait c'était à la portée de n'importe qui. Le vélo, c'est un vrai moyen de voyage, un vrai moyen de locomotion, mais pas seulement pour voilà, voyager sur une journée autour de chez soi. On peut partir pour une durée bien plus importante et pourquoi pas pour un an et demi pour traverser un continent entier. Donc en fait, il faut simplement trouver le rythme dans lequel on est le plus à l'aise, penser que le lendemain, il faudra repartir, donc pas jeter toute son énergie dans les premiers jours. Une fois qu'on a trouvé ce rythme-là, et bah, ça va tout seul. L'aventure vous porte et puis vous allez aussi loin que vous voulez, quoi.
Alors, comment tu t'appelles ?
Olivier.
Bonjour Olivier.
Bonjour.
Donc Olivier, je m'intéressais plus à toi, j'ai creusé un peu dans la psychologie du personnage en face de moi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi un jour tu t'es dit « Paris, allez le tandem, l'Afrique ?»
Oui, c'est vrai que ça peut paraître un peu étrange, mais en fait, tout ça, ça a mûri pendant de longues années, je dirais. Moi, j'ai toujours eu une passion pour le roman d'aventure, les carnets de voyage, l'aventure vécue. Donc, dès que j'étais gamin, bah, voilà, je dévorais des Jules Verne, je lisais René Cayet, Frison Roche et autres, et ça m'a vraiment porté. Et puis, plus récemment, bah, je me suis orienté vers des bouquins... De voyageurs contemporains et je me suis dit pourquoi pas moi, quoi. Ils le font après tout, pourquoi pas moi, quoi. Et je me suis rapidement rendu compte qu'en fait le plus difficile, c'est pas de pédaler à travers un continent, c'est de prendre la décision de partir. C'est ça qui est le plus compliqué, parce que partir, c'est se mettre en marche quelque part. Quand on a, comme nous, entre 25 et 30 ans, le chemin tout tracé, c'est de songer à son plan de carrière, de penser à faire un enfant, d'investir peut-être dans un bien immobilier. Et là, subitement, on choisit de prendre une voie totalement différente. Donc, il y a le regard des autres, mais il y a aussi son propre regard vis-à-vis de ce qu'on est en train de faire. Est-ce que c'est pas une folie de tout plaquer comme ça ? Et puis, on a mûrement réfléchi. C'était un projet qu'on a monté à deux avec Adeline. On en a discuté pendant de longues heures, de longues journées. Et on a choisi de franchir le pas tous les deux, quoi.
Alors, avant de partir et de tout quitter, vous étiez déjà intégré, inséré dans une vie professionnelle. C'était la fin des études. Ça arrivait à quel moment, cette décision de départ dans ton cursus personnel ?
On travaillait tous les deux déjà. On était. Moi, je suis journaliste, donc je travaillais dans un quotidien régional dans le sud des Yvelines. Et Adeline est assistante sociale. Donc, on était déjà engagé le début de notre plan de carrière, quoi. Donc, il a fallu prendre cette décision, faire un choix et dire que on mettait entre parenthèses cette activité professionnelle pendant 18 mois, mais peut-être plus, parce qu'à la base on savait pas exactement le nombre de temps que ça allait nous prendre et on voulait être totalement libre de toute contrainte de temps, donc on n'avait aucun impératif. On est parti un an et demi, mais ça aurait pu très bien durer deux ans, quoi. C'était en fonction des rencontres et puis de ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait découvrir sur place, quoi.
Alors un projet comme celui-là, combien de temps en amont tu l'as préparé? Est-ce que vous avez eu une recherche de financement pour pouvoir le sponsoriser? Ou quel a été le travail en amont, avant le premier coup de pédale?
Alors, la première des choses, c'est d'abord d'avoir l'idée, d'imaginer un itinéraire dans les grandes lignes en tout cas, et puis ensuite de prendre la décision. Tout ça s'est fait, je dirais, dans les 3 années qui ont précédé ce voyage. On avait effectué d'ailleurs, dans ce cadre-là, un premier voyage en Afrique, mais dans des conditions bien différentes, donc sac au dos et sur une durée beaucoup plus limitée, sur 1 mois. Et ça nous a permis quand même de nous imprégner de l'ambiance locale et de savoir un petit peu ce qui nous attendait quand même sur place. Et puis aussi d'exacerber toutes ces envies qu'on avait de découverte et de voyage plus long, quoi. Et après, on s'est consacré vraiment à la préparation en elle-même, je dirais, les 6 derniers mois, de manière plus intense, donc avec la réalisation d'un dossier de sponsoring et avec l'achat du matériel et avec un regard peut-être plus... plus attentionné sur le parcours qu'on pourrait éventuellement emprunter.
Donc en dehors du tandem et aller en Afrique et voyager, est-ce qu'il y avait un projet sous-jacent, je sais pas, voir des écoles ou autre chose, un fil conducteur, un fil rouge?
Ouais, tout à fait. En fait, par le plus grand des hasards, on a été contacté par une fondation qui s'appelle Ecosys Action, qui a des projets de sauvegarde de la biodiversité à travers le monde, et quatre, notamment en Afrique. Et cette fondation a accepté de nous sponsoriser, et en échange de quoi, on devait se rendre sur place, sur les différents sites de sauvegarde qui se trouvent en Afrique, et réaliser des petits clips vidéo pour promouvoir leur action sur place, quoi. Donc on a accepté avec grand plaisir, et on devait également emporter un troisième passager, c'était l'Amazon. Mascotte de cette fondation, c'est un petit moineau orange qui s'appelle Boupi. Et Boupi, en fait, on lui a créé un blog pour qu'il puisse raconter aux enfants son voyage pendant pendant la durée de ce périple à travers l'Afrique.
Donc il y avait un blog qui a été mis en place pour pouvoir communiquer avec la famille, les amis, plus tous les gens intéressés.
Exactement.
Sur le projet.
Il y avait le blog de Boupi qui était vraiment destiné aux enfants, je dirais entre 4 et 10 ans. Et puis ensuite le site internet qu'on actualisait, nous, en fonction des cybercafés qu'on pouvait rencontrer sur place. Et on partageait notre quotidien, nos mésaventures, nos joies, nos peines, nos rencontres, voilà, tout ce qu'on pouvait vivre sur place.
Alors, qui dit tandem, dit deux personnes, ça donne quoi de partir à deux?
Alors voilà, on s'est posé longuement la question de savoir si on partait en tandem ou sur 2 vélos séparés. Et puis, comme c'était la concrétisation d'un projet de couple, on s'est dit que le tandem, c'était quand même le symbole absolu de cette démarche. Et on est parti avec ce vélo. On avait sous-estimé, en fait, effectivement, le fait qu'on soit deux et qu'on allait tout partager pendant 18 mois, 24 heures sur 24. C'est une expérience que peu de couples ont l'habitude de vivre quand on reste à la maison. On a toujours un échappatoire, on peut aller boire un coup avec les potes si jamais... Votre moitié vous gonfle un petit peu, il y a toujours moyen de s'échapper. Là, pas du tout. Là, on va tout vivre ensemble. Et au début, en fait, on avait sous-estimé cet aspect-là. Et rapidement, on s'est rendu compte que la moindre broutille, on en fait des tonnes, on la monte en épingle. Et c'est assez difficile de gérer ces petits problèmes du quotidien. Donc, on s'est aménagé des temps de communication toutes les semaines. C'était le jeudi, donc c'était le hasard. On s'aménageait un temps de dialogue. On disait tout ce qu'on avait sur le cœur pour crever l'abcès. Et après, ça allait beaucoup mieux, quoi. Et puis, les semaines avançant, on a fini par réduire ces temps de parole, les espacer de plus en plus. Puis, ils ont fini par disparaître. Et c'est venu naturellement dans notre vie quotidienne, quand on arrivait à s'écouter l'un l'autre sans avoir à aménager ce petit temps.
Il y a eu cette idée de mettre un temps de parole en place le jeudi, c'est une bonne idée ça, pour pouvoir continuer d'avancer d'une façon sereine.
En fait, c'est venu après un gros clash dans le désert, quoi, et on s'est rendu compte que on se bouffait le nez pour des bricoles qui chez nous n'auraient posé absolument aucun problème. Et on s'est dit, il faut réagir parce que sinon on n'ira jamais jusqu'en Afrique du Sud, c'est impossible. Et en fait, on s'apercevait que tout le monde nous avait prédit les pires malheurs quand on avait annoncé qu'on partait en Afrique, les enlèvements, les maladies, enfin tout ce que vous voulez. Et on s'apercevait que le plus grand danger, en fait, c'était nous-mêmes et la relation qu'on pouvait avoir avec l'autre, quoi. Et on s'est dit, voilà, il est temps de mettre quelque chose. Alors, la communication, ça vient spontanément. On se dit, quand il y a un problème, c'est souvent parce que chacun reste dans son coin, a peur d'évoquer ses problèmes. Donc c'est venu un peu de nous deux, quoi. On s'est dit, on va s'ouvrir, on va voir ce que ça donne. Ça fait mal sur le coup, mais à long terme, c'est vraiment payant, quoi.
et ça a fonctionné. Donc jusqu'au bout, vous avez partagé ce tandem.
Jusqu'au bout, en fait, ouais, on a partagé le tandem. Il y a simplement eu 3 jours sur ces 18 mois où on s'est séparés. Alors, une accumulation de fatigue probablement. Adeline a préféré prendre le bus au Kenya pour rejoindre Nairobi sur 300 km. Et moi, j'ai souhaité poursuivre avec le vélo. Et voilà, c'était les 3 seules journées, mais qui nous ont permis de prendre du recul aussi peut-être et de faire un break. Ça peut sûrement apporter du positif, je pense. Puis après, on a fini sans aucun problème.
Alors là, sur la table, un bouquin, un DVD. Donc pendant votre voyage, vous avez pris le temps d'écrire ou c'est au retour que ça s'est fait? Comment s'est concrétisé ce livre et ce DVD?
Pendant toute la durée du voyage, on a tenu un carnet de bord au quotidien. Je pense que c'est primordial si on veut vraiment garder la spontanéité des rencontres et puis ne pas confondre les gens, les lieux. Donc il est important de garder une trace écrite. Et puis une fois de retour à la maison, on a synthétisé tout ça, on a élagué beaucoup de choses. Et puis on a fait ce bouquin qui présente notre vie quotidienne pendant ces 18 mois avec pareil nos joies, nos peines, nos désillusions, nos notes d'optimisme, et on essaie de partager un petit peu tout ça. C'est une deuxième aventure après l'aventure elle-même, quoi.
Donc l'itinéraire Paris jusqu'en Afrique du Sud, là j'ai la carte sous les yeux, ça fait combien de pays traversés ça?
Alors au total ça fait 18 pays si on compte la France et l'Espagne qu'on a traversé pour se mettre en jambes. Ensuite, on a traversé le Maroc, le Sahara occidental qui n'est pas un pays qui est reconnu par toute la communauté internationale. La Mauritanie, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Togo et le Ghana. Et là on a été contraint de prendre l'avion pour passer en Afrique de l'Est jusqu'en Éthiopie pour des raisons de sécurité. Les pays qui étaient sur notre route étaient malheureusement en proie soit à des conflits, soit ils comportaient des zones à risque. On n'a pas voulu se mettre en danger, donc on a préféré prendre l'avion. Et puis ensuite, on a poursuivi notre route le long de la vallée du Grand Rift, à travers le Kenya, la Tanzanie, le Malawi, et ensuite la Zambie et l'Afrique australe, Zimbabwe, Botswana, Namibie, et enfin l'Afrique du Sud en juillet 2010.
Quand on parle d'Afrique, c'est assez complexe, j'ai envie de dire, parce que l'Afrique, c'est quand même beaucoup de cultures, beaucoup de pays différents, et l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, Est, Ouest, on pourrait parler de des Afriques. Donc toi, tu l'as traversé du haut du Nord au Sud. Combien d'Afrique tu as traversé?
Totalement, là, t'as tout à fait raison. C'est vrai que dans les esprits souvent, et ça se ressent dans les questions qu'on nous pose, les gens parlent de l'Afrique comme un pays, comme une sorte de pays uniforme. C'est très loin d'être le cas, effectivement, c'est extrêmement varié et diversifié. Parfois même au sein même d'un pays, je pense à la Namibie, il y a une variété de paysages qui est énorme. D'autres pays sont extrêmement riches sur le plan culturel ou sur le plan des populations qui sont totalement différentes. Donc il y a des centaines d'Afrique, c'est certain. Les frontières ne veulent pas dire grand chose en général, ce sont des lignes imaginaires qui ont été posées là un petit peu parfois à la règle et tracées à la va-vite. Donc l'Afrique, elle a une multitude de visages qui sont effectivement très complexes. C'est parfois très difficile d'ailleurs avec l'œil occidental d'appréhender toutes ces facettes, de tout comprendre. On peut parfois être choqué, surpris, ça c'est évident parce que il y a un monde parfois entre nos cultures. Mais à partir du moment où on fait la démarche d'aller vers ces gens-là, c'est qu'on est ouvert sur les autres, ouvert sur l'inconnu, et c'est toujours enrichissant de faire ces rencontres-là, quoi.
Le DVD.
Alors le DVD, c'est un DVD de 80 minutes. Alors c'était un défi de synthétiser 18 mois de voyage en 80 minutes. On avait ramené une quarantaine d'heures de rush, donc on avait beaucoup de matière. Et voilà, on s'est focalisé sur des moments forts, sur des régions, des rencontres qui nous ont particulièrement marqués. Même si on a eu des dizaines, il a fallu faire un choix. Et c'est un témoignage, c'est partager un peu notre quotidien pendant ce voyage-là, et puis pourquoi pas donner envie, ou en tout cas offrir une opportunité d'évasion aux gens qui n'auraient pas la possibilité de voyager.
Alors faire l'Afrique en vélo ou en tandem, c'est aussi faire beaucoup de rencontres sur son chemin. Comment est-ce que l'Africain, j'aime pas dire l'Africain parce qu'encore une fois c'est des Afriques, mais comment est-ce que les habitants perçoivent ce mode de déplacement? Que vous êtes fou, pas, c'est normal, c'est... Qu'est-ce qu'il en ressortait?
Alors, le tandem a un capital sympathie débordant. Il suscite la curiosité. et il provoque la rencontre de lui-même. Les gens viennent naturellement nous voir, ça c'est une certitude, ce qui nous a ouvert beaucoup de portes. Nous on était totalement autonomes, donc on voyageait avec la tente et le matériel de bivouac, mais comme on évolue dans un environnement qu'on ne connaît pas, on n'est pas conscient forcément des risques, donc on préférait demander aux gens si on pouvait planter notre tente à côté de leur habitation. C'était un gage de sécurité et puis voilà, l'occasion de discuter, de découvrir un peu leur intimité, puis un moment de partage en général, quoi. Donc c'est ce qui a vraiment conduit notre voyage au jour le jour. Chaque fin d'après-midi, il fallait trouver un nouvel endroit pour bivouaquer, un nouveau village. Après, le vélo a pas été perçu de la même façon partout. On nous posait souvent une question, mais pourquoi vous, Européens, vous, Occidentaux, vous voyagez à vélo, qui est le moyen de transport du pauvre en Afrique, alors que vous avez les moyens de voyager en 4x4 avec la climatisation, quoi. Alors, c'était assez difficile de répondre à cette question-là, et puis on finissait par leur dire, mais si jamais on avait voyagé avec un 4x4 climatisé, comme tu dis, jamais on t'aurait rencontré, quoi, parce qu'on ne serait pas arrêté dans ton village, on aurait tracé tout droit jusqu'au prochain point touristique, et puis on n'aurait pas fait toutes ces rencontres-là, quoi. Donc tu vois, notre voyage, il est riche uniquement de ces rencontres qu'on a fait en dehors des sentiers battus et qui ont été provoquées quelque part par notre moyen de transport. Ya Fatoumata, Ya Fatoumata, Bangameni Saimoro, Ya Fatoumata. Bu magge la xami ko dal ya fatoumata bu magge la xami du dey ya fatoumata bu magge la xami ma way ya fatoumata dom de joy na wetoy mam xare he he amul batam ngir fo wije beug na doxon tuje amul batam ngir fo wije beug na fo we mam sey na ñana na koy huwa ye huwa ni huwa.
Le tandem, bah, c'est aussi quand même il y a de la mécanique là-dedans. Alors est-ce que ça peut poser problème, ça, quand on se lance dans une aventure comme celle-là, une roue voilée, une jambe qui pète?
Ouais, inévitablement sur 20 000 km on va avoir des soucis mécaniques, ça c'est certain. On a eu pas mal de crevaisons notamment, on est parti avec des très bons pneus qui nous ont fait 10 000 km sans presque aucun pépin, puis après sur place, bah, voilà, il a fallu les changer. Donc on a acheté des pneus qui étaient pour la plupart made in China ou en tout cas fabriqués en Asie du Sud-Est et qui étaient de qualité bien moindre, donc on faisait que 500 km avec ces pneus-là et on cumulait les crevaisons, donc on a eu 38 au total sur les 20 000 km. Après, il y a l'usure, il y a aussi les conditions qui font qu'on est régulièrement confronté, voilà, à de la boue, à du sable et la mécanique, tout ce qui est périphérique, ça s'use, la transmission, il faut la changer régulièrement. Et là, une fois qu'on a utilisé le système D à fond, on n'a plus qu'une seule solution, c'est de se faire envoyer des pièces neuves par la poste, quoi. Il n'y a pas d'autre solution. Donc voilà, la mécanique, c'est vrai que régulièrement, il faut mettre les mains dans le cambouis. Quand il n'y a que ça à gérer, c'est pas une difficulté. Quand il y a en plus un problème de ravitaillement à gérer ou je sais pas, un climat où la chaleur est importante, quand tout se grève d'un coup, c'est vrai qu'avoir une crevaison supplémentaire, on n'en a pas forcément besoin et il faut avoir les nerfs solides pour supporter tout ça, quoi.
Alors est-ce que c'était 18 mois de mouvement où des fois ça vous arrivait de vous dire tiens, ici c'est sympa, ces gens sont super chouettes, on va rester 2 semaines?
Oui, alors en fait, comme on est parti sans impératif de temps, que personne nous attendait véritablement, on a choisi de s'arrêter quand on avait envie, quand la région s'y prêtait, quand les rencontres qu'on avait faites nous poussaient à prolonger l'aventure parmi eux. Ça nous est arrivé de, par exemple, à Nouakchott en Mauritanie, on est resté 3 semaines alors qu'on avait prévu de rester une soirée, et puis le contact est tellement bien passé avec nos hôtes qu'on a décidé de prolonger. Après, on pouvait plus partir, c'était un autre problème parce que il y avait toujours un événement d'organiser, il y avait toujours un échoui, il y avait toujours quelque chose à faire, et ça s'est produit pas mal de fois. Alors après, un des problèmes à prendre en compte, c'est qu'on est parfois hébergé par des populations aux revenus très modestes, voire inexistants. Donc, on veillait à ne pas peser sur leur quotidien. Et à ce moment-là, on s'éclipsait le matin et on restait une seule nuit. On avait toujours avec nous de quoi manger, en tout cas, pour pas peser directement sur leurs ressources à eux, quoi. Sinon, en moyenne, on faisait 100 km par jour, mais ça pouvait être espacé. On pouvait pédaler pendant 3 jours et s'arrêter une semaine. C'était assez variable et ça, c'était vraiment en fonction des rencontres et des centres d'intérêt qu'on pouvait découvrir en route, quoi.
Et financièrement, donc, du coup, comment est-ce que vous teniez le coup? Comment est-ce que tu gérais le budget? Quel a été le budget journalier à peu près?
Alors, voyager en Afrique, quand on est en brousse, ça coûte relativement peu cher. Surtout quand on voyage de manière totalement autonome avec la tente et le réchaud, la nourriture est très très bon marché. L'hébergement ne coûtait absolument rien la plupart du temps puisqu'on plantait notre tente. Donc avec quelques euros, enfin même avec 1 euro ou 2 euros, on peut arriver à vivre dans la plupart des pays. La situation est différente dans les capitales et dans les grandes villes où il est plus difficile de planter sa tente n'importe où. Donc la plupart du temps, il faut louer une chambre dans un hôtel ou dans une auberge. Et là, les prix sont beaucoup plus importants. Sinon, ce qui nous a coûté cher dans ce voyage, c'est principalement l'investissement à la base dans le vélo, le matériel. Une fois qu'on était sur la route, c'était relativement peu.
Bah, il y a aussi un autre frais, peut-être, un autre coût, c'est des coûts consulaires, les visas. Comment est-ce que se passe l'obtention des visas aux frontières? Est-ce que ça vous arrivait de rester bloqué plusieurs jours, justement, le temps d'avoir le visa? Ou est-ce que vous aviez réussi à anticiper tout ça et organiser ça avant votre départ?
Le tandem, c'est aussi un sésame aux frontières, c'est-à-dire qu'on nous pose relativement peu de questions liées aux formalités douanières, mais plus des questions liées à notre voyage en lui-même. Donc les douaniers sont très curieux, veulent savoir d'où on vient, où on va, comment il est possible de voyager avec ce genre de vélo. Puis au final, ils finissent par nous ouvrir la barrière. Alors bien sûr, on s'acquittait du prix du visa, mais dans la quasi-totalité des pays qu'on a traversés, il n'y a eu aucune difficulté à les obtenir à la frontière. À 2 ou 3 exceptions près, ça s'est passé comme ça, quoi. Donc on arrivait, et puis on achetait le visa, et puis on passait. On n'a jamais attendu plus de 2 heures. Ça passait vraiment comme une lettre à la poste. Et d'ailleurs, tous les gens qui voyageaient en 4x4 étaient assez jaloux, parce que eux, forcément, avaient beaucoup plus de formalités liées au véhicule à remplir. Alors que nous, on remontait les fils de voiture, et puis on passait comme une lettre à la poste. Nanana, oh, bah oui. Nanana, nah, oui. Na 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 ho ba ba we. Na 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 we. Unde gero la ba ba ba. Ero nagi 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 ro aku no mana lepto chende. Unde kero na la ba 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 nagi urku. Ero nagi 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 ro aku no mana lepto chende. Na 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 wa ba we, na 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 we, na 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 wa ba we, na 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 we. Tukunde monyono goliye machiro, tukunde monyono goliye mana machiro. Kamungiyo iro to woke. Unde gero la wai baba, gero nagi 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 ro aku no mana lebjo chende. Unde gero la wai baba, nagi 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 ro aku no mana lebjo chende. Na 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 ho baba we, na 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 we, na 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 ho baba we. Un adjectif par pays.
Ou un mot, ou quelque chose, une émotion, ou un mot comme ça qui pourrait résumer.
Alors, je dirais, bon, on va commencer au Maroc, on va mettre de côté la France et l'Espagne. Le Maroc, je vais dire la couleur verte, parce que j'ai été surpris comme on est arrivé au mois de février. par les paysages qu'on a pu traverser dans le nord du Maroc qui étaient extrêmement verts, et j'avais cette idée du Maroc sec, du désert qui était totalement éloigné de ce qu'on a pu découvrir, et ces couleurs vertes m'ont vraiment marqué. On a traversé des endroits fleuris et verts qui étaient assez somptueux. Après la Mauritanie, je dirais, je vais encore choisir une couleur, ça serait le bleu. Le bleu des boubous mauritaniens qui sont assez spécifiques, et à Nouakchott notamment, j'aimais bien sortir en fin d'après-midi et voir tous ces hommes marcher avec le boubou qui flottait au vent. C'est quelque chose d'assez particulier qu'on retrouve dans très peu de pays, quoi, et c'est assez frappant. Le Sénégal, je dirais fruité, et en particulier pour la Casamance. On a eu l'occasion de goûter véritablement ce qui est une mangue. Quand on vit en Europe, on peut avoir goûté une mangue éventuellement, mais elle a beaucoup voyagé elle aussi, elle n'a jamais le goût authentique qu'elle peut avoir quand on l'accueille directement sur le manguier, quand on la ramasse par terre. Le Mali, ça serait chaud, parce que c'est là qu'on a rencontré les chaleurs les plus étouffantes, jusqu'à plus de 60 degrés au soleil. Donc c'est vraiment difficile quand on voyage à vélo. On buvait jusqu'à 20 litres d'eau par jour. Le Burkina Faso, pour moi malheureusement, c'est synonyme de alors ça va pas être un adjectif, mais du paludisme. C'est là que j'ai attrapé le paludisme et j'ai vécu le moment le plus difficile sûrement du voyage. J'avais qu'une seule peur, c'est qu'on me dise de rentrer à la maison. Le Ghana, on y est resté que quelques jours pour prendre l'avion, donc je saurais pas trop le résumer, mais ça serait peut-être moderne s'il y avait un adjectif, parce que comparé au reste des pays d'Afrique de l'Ouest, Accra, c'est une capitale qui est extrêmement moderne avec des centres commerciaux immenses. C'est un petit morceau d'Occident qui est posé sur place. C'est assez marquant quand on vient, quand on a traversé le Mali ou le Togo auparavant. L'Éthiopie. Deux choses sans doute, ce serait les montagnes, les hauts plateaux. Contrairement aux images qu'on peut avoir aussi, c'est un pays qui est extrêmement vert, c'est le château d'eau d'Afrique de l'Est. Alors évidemment, certaines régions sont beaucoup plus désertiques, mais nous, les régions qu'on a traversées, c'était la montagne à plus de 3000 mètres d'altitude. Et puis, un autre mot, ça serait caillassé, puisque c'est ce qui nous est arrivé, malheureusement. On a été pris en chasse régulièrement par les enfants quand on traversait les villages. On était régulièrement caillassé ou menacé de bâtons ou coups de fouet. C'était le seul pays, vraiment, où on a ressenti cette agressivité-là, qui était propre uniquement aux enfants, d'ailleurs. On n'a toujours pas réussi à expliquer ce qui a pu produire ça, quoi. Le Kenya, c'est... Rhinocéros noir. Le rhinocéros noir, encore une fois, c'est pas un adjectif, puisque c'est là qu'on est parti sur les traces du rhinocéros noir, qui est un animal particulièrement menacé. La Tanzanie, ça serait plus safari, c'est l'Afrique des grands parcs, tel qu'on la voit à la télévision, avec les paysages de savane et les animaux. Le Malawi, c'est forcément le lac qui borde le pays sur plus de 600 km. La Zambie, c'est la majesté des chutes Victoria. Le Zimbabwe, ça serait... Le Likaon et la sauvegarde du Likaon. On a pu visiter le seul hôpital pour Likaon au monde. Ensuite, la Namibie, la diversité des paysages. C'est une autre planète. On peut être en quelques heures en plein cœur du plus vieux désert du monde et puis ensuite se retrouver dans un village de la mer Baltique. C'est extrêmement divers. Et puis l'Afrique du Sud, pour nous, c'est synonyme d'arrivée, quoi, et de la fin de ce périple-là. Et voilà, ça serait vraiment l'arrivée pour nous et la concrétisation de tout ce périple-là, quoi.
Et donc après 18 mois sur les routes en tandem, le retour. Donc le retour en quelques mots.
Alors le retour, ça fait partie, à mon avis, c'est une partie intégrante du voyage, et on a tort d'ailleurs de pas s'y préparer avant. C'est-à-dire qu'on pense souvent à prévoir son itinéraire, à acheter son matériel, on songe jamais au retour, et pourtant il faut s'y préparer, parce que quand on a été habitué à vivre un petit peu en marge de la société telle qu'on la connaît ici, c'est très difficile de reprendre le train en marche. Donc psychologiquement, les dernières semaines, il faut se préparer à ce retour-là, passer la joie de revoir sa famille et ses amis, de goûter à son petit confort. Il y a un grand vide qui s'installe. Il y a aussi le manque de l'effort quotidien. On était habitué à pédaler pendant 6 heures, 7 heures, jusqu'à 8 heures par jour. Et bah, l'organisme a besoin de sa dose d'effort quotidienne, et là, on l'a plus. Donc, il y a, je dirais, un travail psychologique à effectuer avant de rentrer chez soi, qui n'est pas forcément évident. Une petite période de déprime, et puis moi, je suis parti directement sur la rédaction du bouquin et puis la réalisation du DVD. Donc, j'ai continué à bercer dans cet univers et à remuer les vieux souvenirs. Donc, ça a été difficile de tourner la page de cette aventure. Et on y est toujours dedans, puisqu'aujourd'hui, voilà, on en parle, on partage encore tout ce qui nous est arrivé, quoi.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.